voyez-vous quelquefois notre ami Martinon ?
Il viendra ce soir, dit vivement la jeune fille.
Ah, tu le sais ? Répliqua sa tante en arrêtant sur elle un regard froid, puis un des balais s'étant penché à son oreille.
Ta couturière, mon enfant, Miss John.
Et l'institutrice, obéissante, disparut avec son élève. M. D'Ambreuse, troublé par le dérangement des chaises, demanda ce qu'il y avait.
C'est Madame Regimbard.
Tiens, Regimbard, je connais ce nom-là. J'ai rencontré sa signature. Frédéric aborda enfin la question. Arnoux méritait de l'intérêt. Il allait même, dans le seul but de remplir ses engagements, vendre une maison à sa femme.
Elle passe pour très jolie, dit Madame D'Ambreuse.
Le banquier ajouta d'un air bonhomme. Êtes-vous leur ami intime ? Frédéric, sans répondre honnêtement, dit qu'il lui serait fort obligé de prendre en considération.
Eh bien, puisque cela vous fait plaisir, soit, on attendra. J'ai du temps encore.
Si nous descendions dans mon bureau, voulez-vous ? Le déjeuner était fini. Madame D'Ambreuse s'inclina légèrement, tout en souriant d'un rire singulier, plein à la fois de politesse et d'ironie. Frédéric n'eut pas le temps d'y réfléchir, car M. D'Ambreuse, dès qu'ils furent seuls, « Vous n'êtes pas venu chercher vos actions. » Et sans lui permettre de s'excuser,
« Bien, bien. Il est juste que vous connaissiez l'affaire un peu mieux. »
Il lui offrit une cigarette et commença.
L'Union générale des houilles françaises était constituée. On n'attendait plus que l'ordonnance. Le fait seul de la fusion, diminuant les frais de surveillance et de main-d'œuvre, augmentait les bénéfices. De plus, la société imaginait une chose nouvelle, qui était d'intéresser les ouvriers à son entreprise. Elle leur bâtirait des maisons, des logements salubres. Enfin, elle se constituait le fournisseur de ses employés, leur livrait tout à prix de revient.
Et ils gagneront, monsieur. Voilà du véritable progrès. C'est répondre victorieusement à certaines criailleries républicaines. Nous avons dans notre conseil, il exhiba le prospectus, un pair de France, un savant de l'Institut, un officier supérieur du génie en retraite, des noms connus. De pareils éléments rassurent les capitaux craintifs et appellent les capitaux intelligents. La compagnie aurait pour elle les commandes de l'État, puis les chemins de fer, la marine à vapeur, les établissements métallurgiques, le gaz, les cuisines bourgeoises. Ainsi, nous chauffons, nous éclairons, nous pénétrons jusqu'au foyer des plus humbles ménages. Mais comment, me direz-vous, pourrons-nous assurer la vente ?
Grâce à des droits protecteurs, cher monsieur, et nous les obtiendrons. Cela nous regarde, moi du reste. Je suis franchement prohibitionniste, le pays avant tout.
On l'avait nommé directeur, mais le temps lui manquait pour s'occuper de certains détails, de la rédaction entre autres. Je suis un peu brouillé avec mes auteurs, j'ai oublié mon grec. J'aurais besoin de quelqu'un qui ait pu traduire mes idées. Et, tout à coup, voulez-vous être cet homme-là, avec le titre de secrétaire général ?
Frédéric ne sut que répondre.
Eh bien, qui vous empêche ?
Ses fonctions se borneraient à écrire, tous les ans, un rapport pour les actionnaires. Il se trouverait en relation quotidienne avec les hommes les plus considérables de Paris. Représentant la compagnie près des ouvriers, il s'en ferait adorer naturellement, ce qui lui permettrait, plus tard, de se pousser au conseil général, à la députation. Les oreilles de Frédéric tintaient. D'où provenait cette bienveillance ? Il se confondit en remerciements.
Mais il ne fallait point, dit le banquier, qu'il fût dépendant de personne.
Le meilleur moyen, c'était de prendre des actions, placement superbe d'ailleurs, car votre capital garantit votre position comme votre position votre capital.
À combien environ doit-il se monter ? Dit Frédéric.
Mon Dieu, ce qui vous plaira, de 40 à 60 000 francs, je suppose. Cette somme était si minime pour M. D'Ambreuse et son autorité si grande que le jeune homme se décida immédiatement à vendre une ferme. Il acceptait. M. D'Ambreuse fixerait un de ses jours un rendez-vous pour terminer leurs arrangements.
Ainsi, je puis dire à Jacques Arnoux
tout ce que vous voudrez, le pauvre garçon, tout ce que vous voudrez. Frédéric écrivit aux Arnoux de se tranquilliser et il fit porter la lettre par son domestique auquel on répondit « Très bien ». Sa démarche, cependant, méritait mieux. Il s'attendait à une visite, à une lettre, tout au moins. Il ne reçut pas de visite, aucune lettre n'arriva. Y avait-il oubli de leur part ou intention ? Puisque Madame Arnoux était venue une fois, qui l'empêchait de revenir ? L'espèce de sous-entendu, d'aveu qu'elle lui avait fait,
n'était donc une manœuvre exécutée par intérêt? Se sont-ils joués de moi? Est-elle complice? Une sorte de pudeur, malgré son envie, l'empêchait de retourner chez eux. Un matin, 3 semaines après leur entrevue, M. D'Ambreuse lui écrivit qu'il l'attendait le jour même, dans 1 heure. En route, l'idée des Arnoux l'assaillit de nouveau, et ne découvrant point de raison à leur conduite, il fut pris par une angoisse, un pressentiment funèbre. Pour s'en débarrasser, il appela un cabriolet et se fit conduire rue Paradis. Arnoux était en voyage. « Et madame ?»« À la campagne, à la fabrique. »« Quand revient monsieur ?»«
Demain, sans faute. »
Il la trouverait seule. C'était le moment. Quelque chose d'impérieux criait dans sa conscience. « Vas-y donc !»«
Mais, monsieur D'Ambreuse ?»«
Eh bien, tant pis. Je dirais que j'étais malade. »
Il courut à la gare, puis dans le wagon. « J'ai eu tort, peut-être. »«
Oh bah, qu'importe !» À droite et à gauche, des plaines vertes s'étendaient. Le convoi roulait. Les maisonnettes des stations glissaient comme des décors, et la fumée de la locomotive versait toujours du même côté ces gros flocons qui dansaient sur l'herbe quelque temps, puis se dispersaient. Frédéric, seul sur sa banquette, regardait cela par ennui, perdu dans cette langueur que donne l'excès même de l'impatience. Mais des grues, des magasins parurent, c'était Creil. La ville, construite au versant de 2 collines basses, dont la première est nue et la seconde couronnée par un bois, avec la tour de son église, ses maisons inégales et son pont de pierre, lui semblait avoir quelque chose de gai, de discret et de bon. Un grand bateau plat descendait au fil de l'eau, qui clapotait fouetté par le vent. Des poules, au pied du calvaire, picoraient dans la paille. Une femme passa, portant du linge mouillé sur la tête. Après le pont, il se trouva dans une île, où l'on voit sur la droite les ruines d'une abbaye. Un moulin tournait, barrant dans toute sa largeur le second bras de l'Oise que surplombe la manufacture. L'importance de cette construction étonna grandement Frédéric. Il en conçut plus de respect pour Arnoux. 3 pas plus loin, il prit une ruelle, terminée au fond par une grille. Il était entré. La concierge le rappela en lui criant « Avez-vous une permission ? Pourquoi ? Pour visiter l'établissement. » Frédéric, d'un ton brutal, dit qu'il venait voir M. Arnoux.
« Qu'est-ce que c'est que M. Arnoux ?»«
Mais le chef, le maître, le propriétaire, enfin. »«
Non, monsieur, c'est ici la fabrique de messieurs Leboeuf et Millier. »
La bonne femme plaisantait, sans doute. Des ouvriers arrivaient. Il en aborda 2 ou 3. Leur réponse fut la même. Frédéric sortit de la cour en chancelant comme un homme ivre. Et il avait l'air tellement ahuri que sur le pont de la boucherie, un bourgeois en train de fumer sa pipe lui demanda